Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Écoutez dès maintenant l'épisode avec Dominique Arpa.
Fait que je me suis dit, cette journée-là, je pourrais jamais avoir plus peur que ce que j'ai vécu dans le bureau du médecin lorsqu'elle m'a dit que j'avais un cancer puis que la masse était grosse comme un pamplemousse sur mon rein.
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média.
Présenté par le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec. Ensemble, tissons l'espoir.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado sortie de zone saison 5, épisode 57 de ce lundi 29 avril. Vous savez maintenant, c'est un rendez-vous à chaque lundi d'ici la fin de la saison, le repêchage, l'ouverture du marché des joueurs autonomes le lundi, outre journée fériée que nous serons là le mardi, mais c'est un rendez-vous donc chaque semaine, chaque lundi, nous sommes là pour le balado sortie de zone. Je salue immédiatement les gars de la presse qui sont avec nous. Alexandre Pratt qui est là, salut Alexandre.
Salut Jerry.
Nous avons Simon-Olivier Larange qui est là, salut Simon-Olivier.
Salut.
Nous avons Antoine Roussel pour le 98.5 FM qui est avec nous. Salut Antoine.
Salut les gars.
Bon, hey les gars, avant qu'on commence, juste vous dire, nous avons ici un récipiendaire, quelqu'un qui a été honoré tout récemment. Il a remporté le concours canadien du journalisme de catégorie sport. Alexandre Pratt est avec nous. Hey, bravo Alexandre.
Merci,
félicitations.
Merci,
félicitations.
Merci.
Écoute, qu'est-ce que ça fait, premier commentaire?
Ben en fait, c'est rare que des francophones gagnent ce prix-là. J'ai calculé, je pense que je suis le troisième à 75 ans, fait juste pour ça, c'est super le fun. Mais en fait, ce que je dirais, c'est que je suis vraiment content de travailler pour une organisation qui est la presse, puis par la bande de 98.5, c'est une organisation qui comprend la place du sport dans la société puis qui investit là-dedans. Parce que, platement, mais depuis 2-3 ans, souvent on va sur des galeries de presse en région, n'importe où, même à Montréal, puis on est tout seul. Fait que je suis quand même content de travailler pour des médias qui investissent dans le sport.
Ben, on est content que tu sois avec nous sur le balado sortie de zone. Voilà, c'est bien dit, c'est bien fait.
Et si je peux me permettre, c'est un gala qui avait lieu à Toronto. Ouais. Et c'est, je crois, le seul trophée sportif qui va être gagné à Toronto ce printemps.
Oh!
Si je peux me permettre une transition très habile vers notre premier sujet.
Ah, Simon-Olivier, tu es très fort parce que c'est la zizanie présentement à Toronto. Tire l'arrière 1-3 face aux Bruins de Boston. On a perdu le dernier match 3-1. Austin Matthews, Mitch Marner et William Nylander se sont enguirlandés sur le banc. Qu'est-ce qui se passe à Toronto, Simon-Olivier?
Tout se passe à Toronto. C'est pour ça que c'est formidable de suivre les Maple Leafs en série. Juste dire, en commençant, moi, je pense pas que cette série-là est finie. Je pense pas que les Leafs sont morts et peut-être que les Leafs vont me faire mentir dès demain, au lendemain du balado. Ils vont se faire torcher puis après ça, on n'en parlera plus. Ou on va en parler pendant l'été, évidemment. Mais c'est formidable tout ce qui se passe à Toronto. Et ce que je trouve vraiment fascinant, c'est que c'est comme si tout le monde était surpris. Alors que les Leafs, on savait depuis l'été passé qu'il y avait une moins bonne formation que l'année précédente. On savait depuis la date limite des transactions qu'il n'y avait pas une défense qui était guérée pour aller loin en éliminatoire. Je veux dire, c'est des défenseurs qui sont pas capables de transporter la rondelle ou de faire circuler la rondelle. On le savait, là ça arrive en série, pis on est un peu surpris. On y a Ilya Samsonov qui est une boîte à surprises en série, pas dans le bon sens du terme, et c'est ce qui arrive. Les Bruins de Boston qui sont une forte équipe, qui ont une meilleure saison que les Maple Leafs, et ils montrent qu'ils sont une meilleure équipe. Peut-être pas 55, c'est relativement serré, mais dans l'ensemble, ils ont l'avantage. Et là, en plus, la bataille est pognée. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de temps pour écouter du hockey dans les derniers jours. J'ai pris une semaine de congé après la fin du Canadien. Et je me suis régalé de ce que j'ai vu des Maple Leafs dans la dernière semaine.
Je veux savoir, Alexandre, si tu me permets, je vais demander à Antoine Roussel, parce que ancien joueur de la Ligue nationale de hockey. Antoine, je sais que tu vas peut-être me dire, ah, c'est normal, ça arrive, il y a beaucoup d'émotions, les gars s'enguirlandent sur le banc. Mais sincèrement, quand tu regardes ce qui se passe du côté des Leafs, c'est pas quelque chose qui est bon. Là. Ça sent pas bon présentement à Toronto.
Non, absolument, mais c'est clair que ça sent pas bon. C'est pas une situation enviable. C'est pas une situation que les joueurs aiment. C'est une situation qui amène beaucoup plus de stress puis de distraction autour de l'équipe. Pour moi, c'est pas le genre de choses que j'aime voir. Ça m'est déjà arrivé d'être dans une situation comme ça avec un de mes coéquipiers, Johnny Oduya. On jouait à Boston. Contre Boston, pour moi, Boston, ils ont quelque chose qu'ils font qui frustre les équipes. Puis, on jouait à Boston. Puis, un concours de circonstances, mon match n'allait pas très bien. Et je bloque un lancer. Puis, j'ai de la misère à rentrer au banc. Je sais plus comment je fais, mais je suis capable de me rendre quand même. Là, il bloquait un lancer de Zdeno Chara sur le pied, puis ça avait explosé mon shot blocker. Et à ce moment-là, ben j'arrive au banc, je saute dans le banc quasiment pour me rendre. Puis de fil en aiguille, je commence du côté des attaquants. Puis Johnny Oduya, lui, je sais pas trop ce qui s'était arrivé, mais il n'y avait pas eu une bonne présence non plus. Et à un moment donné, on se retrouve dans le milieu du banc, lui et moi. Puis il me regarde. Puis il décolle. Et là, me faire varloper de cette manière-là, j'avais rarement vu ça dans ma carrière. Puis en fait, dans ma jeune carrière, à ce moment-là, j'avais jamais vu ça. Et j'avais eu la présence d'esprit. Et ça, à ce moment-là, c'était quand même assez, je vais dire, noble de rester calme. Et à ce moment, comme je vous disais, à ce moment-là, il a décollé. Fait que là, on se fait marquer en plus un but. Là, il file pas. Mais tu sais, ça amène toute une anémiosité, ce genre de situation-là. Et cette anémiosité-là, je l'ai gardée pendant quelques semaines. Même si tu veux passer à autre chose, mettons que Johnny Oduya, là, quand c'était le temps d'aller manger le soir, là, c'était pas le premier texto qui veux-tu aller manger à soir. Puis, ça avait mis de l'eau dans le gaz. Fait que là, si on se transporte puis on compare un petit peu les situations, ben c'est clair que ça met de l'eau dans le gaz. C'est pas parfait, mais c'est quand même une équipe qui ils sont bâtis, ils sont ensemble depuis plusieurs saisons. Puis ça doit arriver des fois que comme quand t'es avec tes frères avec ta famille, ben t'es sur les nerfs, t'es à fleur de peau, puis j'ai l'impression que c'est plus une situation comme ça qui est arrivée dans ce cas-là. Okay. Donc, il faut pas en faire un gros cas, je pense.
OK. Alexandre, toi, est-ce que c'est une opinion que tu partages? Faut pas en faire un gros plat?
Non, moi, je pense qu'il y a un gros plat. C'est rare quand même de voir des joueurs en plein cœur d'une partie comme ça, en guirlandais, un coéquipier. Pour moi, c'est symptomatique de quelque chose de plus important. T'sais, ça arrive pas là que dans la vie, de façon générale, on réprimande un collègue publiquement la première fois. T'sais, d'habitude, il y a une escalade quand même. On va donner un premier ratifiant, un deuxième, on va faire une intervention. Puis là, quand t'es vraiment à bout, là, t'interviens, puis tu chiales. T'sais. C'est un petit peu comme quand Pierre Pagé... des Nordiques avait engueulé Matt Sundin sur le banc.
À peine, quelques mots doux à l'oreille.
Ben, on devinait que c'était pas la première fois que, je veux dire, ils avaient une conversation, puis qu'à un moment donné, si le couvercle de la marmite saute, c'est parce que ça fait plusieurs minutes que ça boue, plusieurs même mois que ça boue. Donc, pour moi, c'est un petit peu symptomatique de quelque chose de plus important. Tu sais, dans la vie, de façon générale, je connais pas beaucoup de travailleurs qui réagissent bien quand leur patron ou leur collègue, en fait, les ramasse fort comme ça. Habituellement, la première action, c'est plus on gèle, puis on a peur après ça de commettre une erreur. On joue sur les hockey, ça veut dire qu'on joue sur les talons, on se remet en question, on perd peut-être la seconde d'avance qu'on a par rapport à d'autres. Donc, tout ça ne peut pas être possible. Puis je suis d'accord, là, Mitch Marner, qui était la personne, clairement, qui avait l'air d'être visée là, par William Nylander ici, à mon avis, a connu une bonne troisième période. Puis c'est peut-être quelqu'un qui réagit bien à ce genre de propos. Il y a déjà un documentaire d'ailleurs de la CBC là, qui suivait la famille Marner où le père de Mitch Marner était comme assez intense avec son fils. Fait que, c'est peut-être quelqu'un qui a grandi dans un environnement où il a été sujet à de la critique comme ça. Mais de façon générale, je trouve pas que c'est une bonne stratégie. Ben, même pas une stratégie. Je trouve pas que c'est un bon comportement entre coéquipiers de faire ça.
Simon-Olivier, je veux savoir si les Leafs se font battre par les Bruins de Boston. Exemple, on va en parler un petit peu plus tard, là, mais mardi prochain, j'ai appelé ça la nuit des longs couteaux. Il y a quelqu'un qui va perdre de sa job, peut-être à Toronto, penses-tu qu'on va faire des changements? Et là, je parle pas juste du coach, mais est-ce qu'il faut viser le noyau de ce club-là? Est-ce qu'il faut viser les Nylander, les Marner, les Matthews, les Tavares?
Je suis bien tiraillé par rapport à cette question-là parce que le sens commun dirait oui, il va y avoir des changements, mais on croyait qu'il y en aurait après la déconfiture humiliante contre le Canadien en 2021, il n'y en a pas eu. On pensait qu'il y en aurait après la défaite au premier tour contre le Lightning il y a deux ans, il n'y en a pas eu. Et l'année passée, ils ont quand même passé un tour, mais la deuxième tour, ça a été très difficile contre les Panthers et il n'y en a pas eu. En fait, il y a eu une espèce d'imbroglio bizarre qui a mené au départ de Kyle Dubas, remplacé par Brad Treleving, mm-hmm. qui a donné un vote de confiance immédiat à Sheldon Keefe. Là, tu sais, on parle, mettons, congédier l'entraîneur. Sheldon Keefe a un contrat qui commence la saison prochaine. Alors là, est-ce qu'on va vouloir congédier un entraîneur qui a un contrat de, je sais pas, j'ai pas sous les yeux combien d'années. C'est intéressant, ça serait intéressant à voir. Après ça, est-ce qu'on va défaire le noyau? Ben, il aurait pu le faire avant, mais là, est-ce que c'est la goutte qui va faire déborder le vase? Parce que là, on arrive aussi dans une situation contractuelle qui est intrigante. C'est-à-dire, Mitch Marner reste une année avant de devenir joueur autonome sans compensation. Et John Tavares aussi. Pour moi, Tavares, c'est probablement la pièce en trop dans cet organigramme-là. Mais est-ce qu'on fait une dernière année? Est-ce qu'on essaye encore une fois ou on essaie justement de dire on va chercher le maximum pour un de ces gars-là? Tu sais, Marner, C'est ça qui est bizarre de Marner, c'est que c'est un joueur qui produit pas en série. Mais si on regarde ses stats, il joue pas mal, Mitch Marner. T'sais, c'est pas un gars qui se fait prendre, c'est un gars qui a de l'attaque qui génère hein, sur la glace, mais il produit pas de points. Et c'est pas un mythe qu'il en produit pas là, dans les matchs. En carrière, dans les matchs 5-6-7 qu'il a disputé, il a 8 points en 18 matchs. C'est vraiment quand que la soupe chauffe, Mitch Marner, c'est pas nécessairement l'homme de la situation. Alors peut-être que Marner, qui est quand même un joueur qui produit un rythme de 100 points en saison régulière, pourrait être une monnaie d'échange, faire un peu comme on a fait à Phil Kessel, qui est un gars qui s'était beaucoup plus épanoui en étant un peu les
seconds violons. Ça prend de la place sur le plafond salarial.
Il y a des équipes qui en ont. Chicago, mettons, là, tu mettrais Bédard avec Marner.
J'avoue. En Utah, présentement, là, ils ont de l'argent à dépenser pour une première fois. Ils ont juste ça de l'espace salarial. Ouais. Dans le sens où je dis pas qu'ils partaient pas des rumeurs, là. Je sais pas que Mitch Marner s'en va en Utah, mais si on décidait que c'était Marner, la pièce a échangé, le retour pourrait être énorme. Et je pense que c'est peut-être là que le changement va arriver parce que les changements ailleurs, c'est sûr qu'il va en avoir. Devant le filet, on imagine que c'est la fin du ring de Samsonov. Ça va être Joseph Woll à qui on devrait donner une chance. En défense, tout est à construire parce que c'est une défense qui a comme pas d'identité à part avec, après Morgan Riley. En attaque, faut absolument amener de l'attaque secondaire. Tout a l'air à faire, mais je sais pas si on va vraiment, si c'est la fois où on va vraiment attaquer le problème de front ou si on va encore pelleter par en avant en se disant ces gars-là sont tellement bons, ça va finir par marcher.
Puis ils ont des clauses de non-mouvement en passant.
Moi, j'ai vu les gars sur les réseaux sociaux des partisans des Leafs de Toronto à bout. Il y en a un qui disait j'ai payé 800 $ pour venir ici. Ouais. Sincèrement, ce que j'ai vu, c'est un club désengagé. Tu sais, Antoine, c'est peut-être ça le problème, c'est qu'on voit, puis il y a une bonne portion en troisième période, mais Matthews n'était plus là parce qu'il y a un virus. Les docteurs, les médecins lui ont dit tu t'embarques pas pour la troisième période. Mais c'est le désengagement de cette équipe-là qui parfois peut être choquante quand tu sais qu'il y a beaucoup de talent, mais que tu sens pas que ton équipe est engagée. Là, il y a un problème, Antoine.
Ben en fait c'est un petit peu ça quand tu vis juste tu vis seulement sur l'offensive toute la saison. Ça, ils se sont améliorés défensivement, surtout Matthews, mais tu génères beaucoup d'offensives, t'as beaucoup de matchs où ton avantage numérique qui roule, mais t'as pas beaucoup de matchs nécessairement où le score est serré, où c'est difficile dans certaines situations. Puis pour moi, c'est un peu ça que je vois dans leur cas, c'est que ben c'est tellement ils sont vraiment une bonne équipe offensive qui est capable de le faire durant la saison, mais dans les séries, c'est complètement différent parce que tout le monde joue d'une manière vraiment plus assidue, c'est-à-dire que les détails sont bien faits, puis tu joues toujours contre la même équipe. Donc tu t'ajustes, t'as des les coachs arrivent avec des stratégies différentes. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là? Et c'est là que ben quand tu affrontes la même équipe pendant plusieurs fois, ben que ça peut être difficile. Et c'est ça, selon moi, qui vivent. C'est trop facile durant l'année. Ils ont pas nécessairement beaucoup d'adversité. Et quand ça arrive en série, ils ont de l'adversité. C'est là que les fils se touchent. C'est là que sur le banc, tu vois un petit peu de l'engueulade, ce genre de choses. Donc pour moi. Est-ce que des changements sont en vue? Je pense que oui. Je pense que des fois, t'es peut-être mieux d'avoir des joueurs peut-être un petit peu moins offensifs, mais des joueurs qui sont capables de, quand le match est sur une ligne ou sur la ligne, ben de bien la marcher puis de faire en sorte qu'on fait pas d'erreur. Parce que oui, tes joueurs offensifs vont être capables de marquer éventuellement, mais c'est rare que tu gagnes des championnats avec juste une offensive. Ça prend une bonne défensive, ça prend des joueurs qui sont capables de trouver leur jeu d'un cran quand il n'y a pas d'espace. Et ben généralement, les joueurs plus offensifs, ils aiment ça jouer sur la contre-attaque, faire des points justement en entrée de territoire. C'est pas nécessairement des points qui sont faits nécessairement juste avec du cycling, du grind en zone offensive. Il y en a, mais c'est pas tout le temps et c'est pas mal plus refermé en série.
Mais vous allez voir, si jamais il gagne un match, le CBC va être derrière les Leafs. Il va dire, c'est un retour triomphal. Écoute, il y avait une défaite, je pense que c'est pas la dernière, l'autre avant. Après la première période, c'était 2-0 pour Boston, je pense que c'est dans le dernier match. Et là, à CBC, puis je blâme pas personne, mais il y a un petit brin de partisanerie. À CBC, là, on disait, voici, il a marqué parce que lui a été retenu. Là, il trouvait les raisons pourquoi il avait marqué. Non, c'est parce qu'ils sont pas là. Ouais. Et du côté des Bruins, il y a un gars qui s'appelle Brad Marchand qui joue du gros hockey. Marchand a marqué son 56e filet en match éliminatoire, qui fait de Brad Marchand le meilleur buteur de l'histoire des Bruins de Boston. Il a devancé Cam Neely qui en avait 55. Écoute, le gars, il fait tout. Il dérange, il frappe, il marque, il se replie défensivement. C'est le cœur de cette équipe-là.
Et il rentre sous la peau des joueurs des Maple Leafs. Là.
Souvent,
il est
nargue.
On l'a vu là, aller sur le banc des joueurs, là, supposément qu'il aurait dit quelque
chose. Il les a pas lichés encore, toi. Ça,
c'est pas le joueur qui aurait dit quelque chose comme genre, de toute façon, ça va être fini en 5. Là,
ouais, c'est quand il a marqué un but justement dans le 2 ou 3e match, il a dit c'est en 5, c'est fini.
Ben, tu sais, moi, je tiens à le rappeler quand même. J'avais dit les Bruins en 6, puis il y avait comme, il y a deux semaines dans ce balado.
Oui, tu l'avais dit ça.
Il y avait des gens qui étaient pas tout à fait d'accord avec moi, puis même quelqu'un qui est sur ce balado aujourd'hui qui n'est ni si bon ni Jérémy avait même dit, je sens qu'ici, c'est le Montréalais qui parle. Enfin. Non, moi, le joueur qui m'impressionne, c'est Jeremy Swayman. On savait qu'il était bon. Là, pour moi, là, c'est plus que bon. Là, c'est un niveau élite. Il fait la différence dans cette série-là. Écoutez, les Maple Leafs, là, on dit, ah oui, il manque d'attaque et tout ça. Puis, tu sais, ils produisent peu en avantage numérique. Sauf que, au final, si on regarde les buts anticipés, qui est quand même une mesure objective et à laquelle j'attribue beaucoup de mérite, là, tu sais, ils auraient dû en marquer 12 et ils en ont marqué 4. Ça veut dire, Jeremy Swayman, à lui seul, il a sauvé 8 buts qu'il aurait dû rentrer.
Solide.
8 buts, là, c'est à 50. C'est 2 buts par match de sauvé par ton gardien de but. Là. Ça, c'est niveau Carey Price dans ses meilleures années. Là. Alors, c'est sûr que quand t'es les Leafs, malheureusement, ont été malchanceux dans les dernières années. Là. Ils ont quand même eu Vasilevski. Ils ont affronté Carey Price. Là, ils affrontent un Swayman qui est en force. Pour moi, les Bruins est la meilleure équipe défensive. C'est pour ça qu'ils vont gagner cette série-là. Et même, je vais aller plus loin, mais pour les prochaines années, dans cette division-là, on n'arrête pas de dire, les Bruins sont sur le bord d'un déclin. Ça va arriver. Là, ils ont perdu d'abord Sharap. Là, ils ont perdu Bergeron. Ils ont perdu Krejci. Puis on dit, ça va arriver cette année ou l'année prochaine. Mais avec un gardien de but comme Swayman, dans les buts, cette équipe-là va rester bonne.
Moi,
encore
regarde
pour plusieurs
Charlie années. McAvoy, quel défenseur. Ouais. Bouge la rondelle. Ouais. Il est incroyable. Il frappe, il lance.
Ouais, ils ont une bonne équipe.
C'est pas banal. Hein.
Mais.
As-tu un droit de réplique ici?
Attends, il y a Simon Olivier, puis après, c'est toi.
Ça sera pas long. Les Bruins ont quand même des choses à se faire pardonner. L'année passée, ils menaient 3-1 contre les Panthers au premier tour. Et on sait que les Panthers ont remonté. Justement, Ullmark avait eu une espèce de crampe au cerveau en prolongation dans le match 5 ou 6 et ça avait causé beaucoup leur perte. Et l'équipe avait pas bien performé dans le match 7 du tout. Fait que les Bruins, eux, sont en mission. Et moi, comme j'insistais, puis je maintiens que je pense pas que les Leafs sont morts. Mais les Bruins voudront pas étirer cette série-là parce que je pense que vraiment on veut chasser ce mauvais souvenir-là rapidement. À toi, Antoine.
Ben, c'est vrai que j'avais choisi les Leafs. Puis des fois, j'ai une mauvaise habitude de parler avec mon cœur, puis ou avec l'équipe que je veux voir gagner, puis pas nécessairement le faire la décision avec ma tête. Mais bien évidemment, c'est un choix qu'il faut que j'assume. Puis c'est malheureux que pour les Leafs, qu'ils sont pas capables jusqu'à présent de dominer une série. C'est ça qui est un petit peu décevant, c'est que chaque année, les meilleurs joueurs de la ligue, quand ils gagnent pas la coupe cette année, puis c'était la même chose du côté des Oilers, on disait on a appris, mais du côté des Leafs, on n'a pas nécessairement appris, puis c'est dommage. Puis quand on regarde les Oilers, justement, hier soir gagnent un match 1-0, ben je pense qu'on a appris du côté des Oilers, on a appris que c'est important de gagner des matchs, même si c'est pas toi qui domine un match, faut que tu sois capable d'en remporter pareil, d'en voler des matchs, et c'est ça qu'ils ont été capables de faire hier. Donc c'est ça qu'on a martelé à Edmonton l'année passée quand on s'est fait éliminer. Là, j'ai l'impression qu'on a corrigé le tir. Du côté des Leafs, est-ce qu'on va dire ça, est-ce qu'on va avoir cette chance là? Ça va être difficile, mais bien évidemment, pour revenir un petit peu sur les joueurs qui ont quitté les Bruins, c'est vrai qu'il y en a qui ont quitté. Puis je pense qu'on a sous-estimé le fait que des joueurs allaient prendre leur place puis allaient s'améliorer aussi. Des gars comme Charlie McAvoy qui était très bon, je pense que vous l'avez mentionné, il a atteint un autre niveau. Moi, quand je le regarde jouer, je trouve qu'il est encore plus offensif qu'il l'était, mais il est encore meilleur défensivement lui également. Ça y passe sous silence. Lindholm aussi. On est juste une meilleure défensive, mieux bâtie aussi, qui est ensemble depuis longtemps et qui performe ensemble. Donc, elle a la différence. Et puis, offensivement, quand t'as un gars comme Brad Marchand qui embarque sur la glace toujours le premier. Qui fait des choses que personne d'autre est capable de faire depuis la nuit des temps. Puis aussi que quand t'as un Brad Marchand sur la glace, t'essaies de le réveiller. Moi, je comprends pas ça. pourquoi tu essaies de réveiller Brad Marchand? C'est, il est meilleur quand il, quand on le picosse. Puis c'est là, ça a été la stratégie d'ouverture du côté des Leafs. On a pris des mauvaises punitions sur lui. Au final, le meilleur joueur à ce game-là, c'est Brad Marchand, parce qu'il sait comment bien marcher sur cette fameuse ligne-là. Et c'est comme ça qu'il fait sa réputation. Et pour ça que c'est, pour moi, c'est un gars qui va aller au Hall of Fame.
OK, on passe Brad Marchand au Temple de la Renommée?
Ben oui.
Je veux juste reconfirmer ce que j'ai entendu.
Oui. Mais là, Alex, là, si
oui, c'est oui, pas le cas, non, non, tout à fait.
Je sais que tu te gardes un petit calepin, mettant tes notes. Je peux le mettre, celle-là.
OK, parfait.
Je suis d'accord avec toi, toi.
OK, là, on va faire comme les Rangers de New York. On va passer vite sur la série face à Washington. Écoute, c'est bon, hein. Ouais, je sais, je suis content de celle-là. Donc, les Rangers qui ont gagné cette série-là en 4 matchs, victoire de 4-2 face aux Capitals de Washington. Simon-Olivier, je commence avec toi. Alexander Ovechkin, aucun but. Et ce week-end, j'ai eu une conversation avec Stéphane White, puis je posais la question, j'ai dit, sincèrement, ce club-là peut pas recommencer la saison prochaine avec le pas d'attaque qu'on a présentement du côté des Capitals de Washington.
C'est tellement bizarre la trajectoire des Capitals cette saison. En fait, c'est que c'est une équipe qui avait pas d'affaires là. C'est-à-dire qu'on a absolument personne voyait les Capitals en série. Il faut leur donner le crédit. Ils sont rendus.
Mais les autres ont tellement été ordinaires que c'est eux autres qui ont passé.
En même temps, je veux dire, personne peut leur enlever.
Exact.
Mais la plus belle qualité de ce premier tour-là pour les Capitals, ça aurait été la courteur de cette série-là parce que vraiment, c'est même pas qu'ils ont si mal joué que ça, c'est que je veux dire, c'est pas une équipe qui avait des munitions à aucune position pour aller loin. Charlie Lindgren, j'ai beaucoup de respect pour lui, puis il a une saison formidable, mais je pense pas que c'est un gardien qui était là pour sauver son équipe. Il y a quand même des blessés en défense aussi, mais non, en attaque, on a pu l'arsenal offensif qu'on avait il y a quelques années. Et je pense que justement, la disette d'Ovechkin, je sais pas s'il était blessé ou quoi, mais tu sais, c'était pas juste qu'il marquait pas ou qu'il a pas fait de points. C'est vraiment, je voyais des séquences en reprise, là, complètement pas impliqué, désengagé du jeu. Puis tu sais, il est pas le seul à avoir produit de points. T'sais, le meilleur pointeur de la série pour les Capitals, c'est le défenseur Martin Ferry-Harvey, excusez-moi, avec 3 points en 4 matchs. Après ça, Tom Wilson, c'est le seul attaquant qui a 3 points. Après ça, on descend à 2 en 4. Je veux dire, l'attaque des Capitals a été complètement muselée par la défense des Rangers. Et le gardien Shesterkin, qui est parti à l'élite de la Ligue, est arrivé exactement ce qui devait arriver. Des fois, on se demande toujours où va être l'upset dans la Ligue nationale. Ben, en tout cas, il va falloir chercher ailleurs parce qu'il n'y a eu aucun moment où ça ressemblait au début d'une surprise dans cette série-là. Fait que Ovechkin, tu sais, il va le battre son record éventuellement l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais c'est pas un joueur qui est assez complet à ce point-ci de sa carrière avec la manière dont il est entouré pour vraiment faire gagner son équipe, je pense pas.
Alexandre?
Tu rentres pas dans les séries avec un différentiel de buts de moins 37 en espérant pouvoir battre un club qui est dans les plus dizaines, tu sais. Ça arrivera juste pas statistiquement. Il y avait quasiment aucune chance, tu sais, dès le départ. L'autre chose, souvenons-nous, c'est quand même un club qui a vendu à la date limite des échanges. Exact. Ils ont quand même des parties d'Anthony Manta qui a marqué une 20aine de buts cette année. Ils ont laissé partir Kuznetsov pour plein d'autres raisons. Mais c'est ça, je veux dire, à un moment donné, tu t'enlèves l'équivalent d'un trio presque au complet à la date limite des échanges, puis là, tu t'en vas en série contre une super puissance de la Ligue. Il y a une raison pour laquelle on avait tous pris les Rangers.
Pacioretty était là, puis il avance plus, Pacioretty. Ovechkin n'avance pas, Pacioretty avance plus. C'est rempli de gars. TJ Oshie, il fait son maximum.
Oui, mais ils ont comme quand même un groupe là, de joueurs plus jeunes, avec lesquels tu as par exemple Hendrix Lapierre est là-dedans. Mais tu te rends compte que justement, Hendrix Lapierre va avoir un rôle immense dans ce club-là dans la prochaine décennie parce qu'il y en a de la place là. Il y a plein de passes à prendre dans ce club-là pour la prochaine décennie.
OK, Antoine, les Rangers de New York, est-ce que c'est du solide, c'est du sérieux, ça va jusqu'au bout, ce club-là?
Ben, ils vont. C'est difficile à dire parce qu'ils ont vraiment une belle équipe, elle est bien construite, ils ont des joueurs dominants, ils ont notamment Panarin qui est capable de faire la différence à lui tout seul dans un match ou quand c'est les séries, il lève son niveau de jeu d'un cran. Est-ce qu'on va être capable de passer la Floride? Je ne sais pas, ça va être difficile. C'est possible. Moi, personnellement, je pense que éventuellement, ce ne serait pas mon choix qui va sortir de l'Est. Là. Mon choix, c'était la Caroline. Après ça, ça aurait été les Panthers. Puis après ça, les Rangers. Puis là, même avec ce qu'on voit de Boston, j'ai l'impression que Boston serait en avance aussi. Donc, oui, les Rangers, on en parle beaucoup, mais je ne suis pas sûr à 100%.
Quand tu dis ça, c'est drôle, hein? Là, t'as dit la Floride, t'as dit la Caroline, t'as dit les Rangers, tu parles de Boston.
Ah, mais je t'ai fait en ordre.
Non, je sais. Là, on peut rajouter avec ça des bons clubs. Toronto, bonne chance aux Canadiens. Bonne chance aux Canadiens pour essayer de rivaliser. Quand même, c'est des grosses formations, là.
Ben oui.
Tu sais, t'as d'affaires à...
Ouf. Ils vont être bonnes pendant encore quelques années.
Exact, exact. Ouais. Aïe.
Tu sais, quand on dit que la reconstruction n'est pas terminée, là... C'est ça aussi. Là. C'est-à-dire, oui, nous, on voit les joueurs à Montréal qui s'améliorent. Tu sais, Slavkovski est meilleur qu'avant, Suzuki est meilleur qu'avant, Goulet fait de la progrès aussi. Mais je dis, dans les autres équipes, il y en a là, des bons joueurs, là, puis il y en a aussi qui progressent dans les autres équipes. Là. Puis, c'est, je veux dire, le Canadien, pour aller dans les séries, il faut qu'il soit dans les 8 meilleurs de la conférence. Puis, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, mais il y a vraiment un écart présentement entre, à mon avis, les 7 meilleurs clubs de la conférence puis ceux qui suivent en arrière.
Puis, t'as Détroit qui était pas loin, t'as plein d'autres clubs qui sont comme
Ottawa,
juste sous le bord.
Qui va être meilleur à un moment donné.
Puis Buffalo. OK. Bon, là, on va se parler des Jets de Winnipeg qui se sont inclinés 5-1 face à l'Avalanche du Colorado. La série est maintenant 3-1 pour l'Avalanche. Et le gardien de but qui est en nomination au trophée Vézina pour le meilleur gardien de but de l'année. Hellebuck a été chassé du match en troisième période. Trophée Vézina, nomination, là, je vous dis, c'est Bobrovsky, Demko et Hellebuck, les trois qui sont en nomination.
Et Hellebuck va gagner.
Et Hellebuck devrait gagner. A été chassé du match et sous la barre des 900 pour le pourcentage d'efficacité dans cette série-là. Le problème, c'est Hellebuck ou c'est Colorado qui est trop fort? Simon Olivier.
Je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Je pense que les Jets sont complètement implosés défensivement et l'Avalanche s'en régale, surtout sur les unités spéciales, alors que presque une punition sur deux finit par un but de l'Avalanche. Connor Hellebuyck, c'est quand même très intéressant parce que c'est un gardien qui, en saison, est un des meilleurs gardiens de la Ligue depuis un bon moment. C'est quand même c'est un des gardiens qui amorce le plus de matchs en Ligue nationale. C'est des 60 départs année après année. Vous souvenez-vous du 2 juin 2021?
Attends, laisse-moi passer.
Où étiez-vous? Moi, je sais où j'étais parce que j'étais à Winnipeg pour le premier match de la série Canadien Jets de cette série qui s'est terminée en 4 matchs. Et je me souviens aussi que Jake Evans s'est fait arracher la tête. Mais ça, c'est un autre dossier. Revenons sur Connor Hellebuyck. Depuis le 2 juin 2021, donc la date du premier match des Jets contre le Canadien, Connor Hellebuyck est le pire gardien de but de la Ligue en série. Il s'affiche depuis ce jour-là 2 victoires. 11 défaites, 887 de taux d'efficacité, 3,82. C'est vraiment contre le Canadien, il n'avait pas été atroce, mais il avait quand même perdu ses 4 matchs dans une série à bas pointage. L'an dernier, au premier tour contre Vegas, ça n'a pas bien été. Cette saison, ça se passe pas bien. Force est d'admettre que c'est un gardien qui est un excellent gardien. On n'aura pas de débat là-dessus, mais qui ne sauve pas son équipe à date. Et les stats, ses stats à 5-5 sont pas si mal à date dans la série, mais quand on cherche le gardien qui fait la différence, ben c'est pas lui. On parlait de Swayman tantôt. Ouais. Les statistiquement, les Leafs et les Bruins sont pas loin dans la série, mais il y a un gardien qui s'est levé et un autre gardien qui ne s'est pas levé dans la série-là, on sait c'est lesquels, et c'est ce qui se passe avec les Jets, parce que c'est pas parce que Georgiev est formidable, là, on l'a vu le premier match. Et même les autres, ça a été mieux, mais c'est quand même pas, c'est ma réserve par rapport à l'Avalanche. J'ai de la misère à croire qu'on pourrait passer 4 tours avec Georgiev. Mais chez les Jets, vraiment, il y aurait besoin. En fait, la seule chose qui aurait pu les sauver, c'est que leur gardien, joue sa tête. Puis c'est pas arrivé. Fait que je dirais pas que c'est sa faute si c'est là où ils sont les Jets présentement, mais il y a quand même une part de blanc. Mais je vois quand même des gens dire, est-ce qu'on envoie Laurent Brossois? Non, je pense pas qu'on peut faire ça à un gardien de cette étoffe-là de Hellebuyck. Je pense qu'il faut continuer avec lui et avec l'équipe qui joue devant lui puis qui joue pas bien.
Écoute, j'ai pris en note tes statistiques. Là, tu as dit depuis le 2 juin 2021, Hellebuyck, c'est le pire gardien avec les performances dans les séries éliminatoires. Ça veut dire à ne pas mettre sur la même équipe que Mitch Marner, qui lui aussi connaît quelques problèmes. Faites peut-être pas un pool, mettons. Mettez pas ça dans votre pool, c'est pas la bonne affaire. Mais Antoine, c'est pas juste l'histoire. J'ai de la misère à croire que c'est juste l'histoire des gardiens de but du côté des Jets, là.
Ben, je trouvais qu'il a été faible sur plusieurs facettes de jeu. J'ai tellement aimé leur premier match. Leur premier match, ils étaient intenses. Puis des fois, ils étaient intenses. Ils jouaient bien défensivement. On a été capable de, quand on était en fond de territoire, de gagner nos bagarres, de créer de l'offensive. Des fois, de mal faire paraître Cale Makar. Mais par la suite, on avait juste plus ça. Et pour moi, c'est un petit peu ça qu'on voit un petit peu moins. Et les ajustements. Du côté de Colorado, on a fait des ajustements qui ont permis de limiter le temps en zone offensive du côté des Jets. Et ça, c'est ça qui est le plus bénéfique. C'est ça qui me fait penser que Jared Bernard, c'est un excellent coach. Il est capable de déceler des tendances sur une équipe et de s'ajuster mieux que les autres équipes. Puis hier, Rick Bonus, puis Mike Scheifele. Moi, j'étais pas là. J'écoutais des commentaires suite à leur discussion d'après-match. Puis on aurait dit qu'ils étaient pas sur la même longueur d'onde. Donc, du moins, c'est ce qui laissait transpirer, pardon. Et c'est peut-être ça. Il y a peut-être une distorsion au sein de l'équipe. Puis pour revenir à LA Buck, ben des fois la pression elle monte aussi hein, quand tu sais que ça faut que tu sois au sommet de ta forme pour gagner des matchs tout le temps, puis que ton équipe, si t'es pas au sommet de ta forme, elle gagnera probablement pas. Ben ça pèse aussi sur un gardien de but.
Ben puis l'autre chose aussi, LA Buck, il est pas très bon. Là. Il est à moins 3 buts sauvés. Ça veut dire qu'il a donné 3 buts de plus. Swayman était à plus 8. Fait juste le calcul là qu'il y a une différence entre les deux. Mais l'autre chose, je pense, c'est l'indiscipline des Jets. Vraiment. Ouais. Non, mais
c'est ce que Rick Bowness souligne.
Ouais, c'est ça. T'sais, Rick Bowness, après la partie hier, était comme furax contre ses choix. Il les a vraiment lancés. Écoute, là, c'est même plus un autobus. Là. Il les a lancés en dessous de... Qu'est-ce qui est plus gros qu'un autobus?
Un train,
là?
Mettons.
Deux autobus.
Accordéon.
Non, mais il les a rincés. T'sais, puis... Juste le tataouinage l'autre fois à la fin du match, là, genre quand ils sont
dans un match perdu.
Dans un match perdu, puis là, ils perdent là-dedans Brandon Dillon qui se coupe genre le poignet dans. Du gros niaisage, à mon avis. Puis là, on dit ouais, Mathieu, c'est pour avoir un message pour la prochaine partie. Écoute, l'équipe a été indisciplinée all the way. Je disais, règle ton problème d'indiscipline, puis après ça, tu refais du tataouinage. Ça, je trouve vraiment, les Jets, ils se tirent dans le pied, honnêtement, dans cette série-là. Je suis déçu parce que je les avais pris. Puis vraiment, je suis plus du tout confiant.
Les gars, on va faire une courte pause, mais juste avant, j'ai juste faire un petit rappel. Là. Je regardais Arturi Lehkonen évoluer dans cette série-là. Lui qui a quand même 4 buts, 3 passes, 7 points en 4 matchs. Quand même, c'est pas banal pour Arturi Lehkonen. Et je veux juste vous rappeler qu'on a échangé Arturi Lehkonen à l'Avalanche du Colorado pour Justin Barron et un choix de deuxième ronde en 2024 qui arrivera là. Finalement, juste un petit tour de table vite. C'était-tu une bonne transaction, Simon-Olivier?
C'était pas une mauvaise transaction dans le contexte. Parce que là, Arturi Lehkonen, il faut savoir, va avoir 29 ans cet été. Est-ce que le Canadien aurait profité de ses meilleures saisons? Je pense pas. Je pense qu'il avait un peu plafonné avec le Canadien. Puis quand le Canadien l'a échangé, il avait eu sa meilleure saison en carrière, puis il était à 1 point par 2 matchs. Donc, c'était un attaquant de 40 points. Alors, ils ont échangé un attaquant de 40 points. Donc, je veux dire, ça aurait été dur de savoir qu'il allait exploser en série comme ça, parce qu'effectivement, il avait été bon en série pour le Canadien par le passé sans être aussi efficace que ça. Après ça, même s'il avait re-signé, parce qu'il était agent, il allait devenir joueur autonome avec restriction, quel rôle il aurait eu dans une équipe de fond de classement? Je pense pas que le Canadien, en l'échangeant un an plus tard ou deux ans plus tard, aurait eu mieux que ça, qui était un espoir quand même de haut niveau de l'Avalanche en défense, un droitier, qui est Justin Barron, et un choix de deuxième tour au repêchage. Donc, je pense qu'effectivement, évidemment, qu'en voyant Lehkonen jouer présentement, on se dit, ah ben là, le Canadien s'est fait avoir. Dans le contexte, je pense que c'était pas une vilaine transaction, puis je pense pas que le Canadien aurait fait mieux que ça.
OK, juste savoir une chose. Est-ce que ce gars-là est meilleur parce qu'il joue avec l'Avalanche? S'il avait été avec le Canadien, aurait pas eu ce genre de performance-là offensive?
Ouais, ben, je pense que oui, ça aide les coéquipiers avec qui il joue, là, c'est sûr. Mais moi, souvenons-nous qu'il allait devenir joueur autonome, donc avec restriction au Canadien. Puis moi, ma compréhension, c'est que le Canadien avait pas les moyens de se le payer la saison suivante.
Ouais, c'était pas certain qu'il allait le qualifier.
C'est ça, exactement. Ouais. Parce que, souvenez-vous, il y a des gros problèmes de masse salariale. Là. C'était quand il y avait à la fois, je pense, Weber et Price dans l'alignement. Puis là, il se demandait comment il allait y arriver. Donc, ça rentre en ligne de compte. Je pense que le retour était bon. C'est-à-dire quand même un ancien choix de premier tour puis un deuxième tour contre un gars qui, la saison précédente, précédé sa transaction, avait été mis sur le banc. Là. Juste rappeler, Lehkonen, il s'était ramassé dans la niche là, sous Bergevin. T'sais. Donc, ils ont eu un bon rendement. Je pense que la déception là-dedans, c'est le développement de Justin Barron. Moi, je le voyais beaucoup plus gros. En fait, c'est sûrement ma pire prise de position depuis que je suis Canadien. Mais vraiment, je pensais que Justin Barron avait le potentiel d'être un top 2 quand ils l'ont acquis. Ça n'arrive pas pour l'instant. Puis, c'est pas parti pour arriver. Parce que ce gars-là a un flair offensif extraordinaire. Mais on n'est toujours pas capable d'en faire un joueur complet.
Antoine, comment tu trouves ça, cette transaction-là?
Ben, c'est toujours dur de faire des projections pour améliorer, puis quand tu échanges un joueur à une autre équipe. Pour moi, Lehkonen, c'est clair qu'il est meilleur parce qu'il est mieux entouré aussi de là-bas. Puis il y a des organisations, puis Sidney Crosby fait partie de ces joueurs-là avec leur organisation qui décèlent ou qui ont besoin de ces joueurs intenses pour donner de l'aide à leurs joueurs ultra-offensifs. Pour moi, quand Nathan MacKinnon il jouait, ils avaient dit d'essayer. Oh, ok, lui, ça lui prendrait un travaillant qui va au filet, qui a pas besoin de contrôler la rondelle, qui est correct de donner la rondelle, de foncer au filet, que ça soit pas lui le moteur, parce que il y a toutes sortes de types de joueurs de hockey, puis il y a des joueurs qui ont besoin d'avoir toujours la rondelle. Puis il y en a d'autres que c'est pas grave si tu y touches seulement une trentaine de secondes dans un match, ils vont être corrects avec ça, ils vont juste être prêts en permanence. Puis ça peut être le cas de Hyman aussi avec les Oilers, un autre échange que un joueur a explosé, mais ils ont des points comparables, ces deux joueurs-là, parce que ils ont des attributs travaillants, ils vont dans le coin, ils sortent du coin avec la rondelle, ils sont capables d'aider leurs joueurs. Puis quand je parlais de Sidney Crosby, pour moi, je pensais à Brian Rust, qui s'est amélioré aussi. Lui, c'est pas fait changer, mais on le voit, quand il a commencé sa carrière, je pense pas qu'on le voyait nécessairement comme un joueur qui allait avoir une superbe carrière proche de Sidney Crosby. Donc ça, c'est des joueurs qui ont saisi leur opportunité puis qui se sont toujours améliorés aussi par la suite, parce que c'est une chose de faire une comparaison de l'échange, mais quand un joueur continue de se développer puis vit d'autres choses avec une autre équipe, ben c'est là que tu peux maximiser un joueur, puis c'est ça qu'ils ont fait dans ce cas-là. Puis pour revenir sur Barron, je pense qu'on avait peut-être sous-estimé la capacité de ce joueur-là à bien se déplacer, à être rapide, à être efficace. Peut-être qu'on a sous-estimé son patin un petit peu.
Bon, ben écoute, on va faire une courte pause, puis au retour, on va se parler des Islanders de New York, toujours vivants, comme le disait si bien Jerry Boulet. Mais pour combien de temps? C'est ça la grande question, et on va parler de tout ça au retour. Restez là.
Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Écoutez dès maintenant l'épisode avec Geneviève Rioux.
Il y a tellement eu plus d'hommes qui m'ont tendu la main après ça que d'hommes qui m'ont fait mal. Je veux pas laisser les hommes qui blessent gagner. C'est pas supposé d'arriver une fois, encore moins deux fois. Ouais. Qui garantit que ça arrivera pas une troisième fois?
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média.
Présenté par le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec. Ensemble, tissons l'espoir.
On est de retour au balado sortie de zone saison 5, épisode de 57 avec les gars de la presse, Alexandre Pratt, Simon Olivier, Laurence et Antoine Roussel pour le 98.5 FM. Les gars, nouvelle par contre, juste avant qu'on se parle des Islanders de New York, Dave Axtell, qui était l'entraîneur-chef, était l'entraîneur-chef du Kraken de Seattle, a été limogé, a été congédié. Ça, c'est une fois dans les séries en 3 ans avec le Kraken de Seattle. Est-ce qu'on a la mèche courte, Simon Olivier, avec Axtell?
Ben peut-être un peu, parce que les séries à l'année 2 du Kraken, c'était un peu inattendu, dans le sens où la première saison, ça avait été une vraie saison d'expansion. On a fini parmi les derniers de la Ligue. La saison 2, tout a fonctionné, mais tout a fonctionné un peu d'une manière, une espèce de moment magique là, où des joueurs peut-être pas sous-évalués, mais des mal-aimés réussissent à connaître du succès ensemble. Mais cette équipe-là avait plusieurs lacunes, et cette saison, vraiment, ça n'a pas fonctionné. La saison dernière, tout fonctionnait pour eux offensivement cette saison. La rondelle a juste arrêté de rentrer dans le filet. Les gardiens de but avaient été corrects la saison dernière. Ils n'ont pas été très bons cette année. Fait que j'ai pas beaucoup de sentiments par rapport à Dave Axtell dans la vie. Là. Je pourrais pas dire si c'est un bon ou un mauvais coach, mais non, on n'aura pas été très patient. Puis si déjà on décide de faire un changement, faut croire que son message devait plus passer très bien parce que on veut clairement pas passer plusieurs saisons dans le sous-sol de la Ligue.
C'est un club qui a régressé quand même, façon significative. Puis quand on entendait les joueurs lors des matchs, par exemple, contre le Canadien, quand on leur parle avant, tu sais, ce qu'on entendait beaucoup, c'est genre, on est perdu, on a perdu confiance. Ben, tu sais, on a perdu confiance, ça relève quand même, à mon avis, un petit peu de l'entraîneur. Puis l'autre chose, c'est que peut-être que le Kraken aussi a déjà identifié un entraîneur qui, cet été, pourrait être disponible. Puis tu sais, là, il risque d'en avoir, là, qui vont se faire congédier, là, des clubs qui perdent un 3 présentement. Puis ils ont peut-être déjà quelqu'un en tête, puis qui se sont dit, regarde, c'est le temps d'agir.
Ben écoute, il y a un club qui tire de l'arrière 1-3, ce sont les Islanders de New York qui affrontent présentement les Hurricanes de la Caroline. On le sait, Antoine, t'as favorisé les Hurricanes pour aller loin en série de fin de saison, mais les Islanders, avec ce que t'as vu, ce but en deuxième période de prolongation, est-ce qu'on a juste fait étirer, on a juste étiré la sauce un peu, ou tu sens que cette équipe-là peut revenir dans cette série-là, Antoine?
Je pense pas qu'ils peuvent revenir dans la série. Ils ont profité de belles opportunités, ils ont bien joué, mais faut pas les prendre à la légère, parce que c'est une équipe qui est capable de fermer le jeu dans un match d'une certaine manière, parce que Ils sont bons défensivement. Comme je l'expliquais il y a quelques semaines, pour moi, quand je vois les Highlanders, je vois une équipe qui est résiliente, qui s'est qualifiée en série, qui a travaillé fort, qui rend les matchs difficiles. Et quand on joue contre eux, ben, on peut être la meilleure équipe, mais ça ne veut pas dire que ça va être une partie de plaisir quand tu joues contre les Highlanders. C'est ça leur identité d'équipe. Ça fait des années, c'est difficile, mais ils sont capables de, comme je le disais, de faire languir les choses, et c'est ça qu'ils font. Puis d'une certaine manière, ils ont un certain succès, mais je pense pas qu'ils ont le punch offensif pour faire la différence dans la série. Je pense qu'ils ont juste, ils vont juste faire étirer le plaisir. Puis tant mieux, ça nous fait des matchs de plus à regarder à la télévision.
Ouais.
Puis d'autres, une autre série à suivre. Ben puis des joueurs aussi qu'on apprend à découvrir. Puis au final, ben c'est ça qu'on voudrait voir. Est-ce que Barzal rentre dans la même catégorie que Mitch Marner? Ben, le dernier match s'est réveillé. Mais tu sais, est-ce que lui, il rentre dans cette catégorie-là? Ben, c'est ça qui est le fun quand tu rajoutes des matchs en série, c'est que tu t'achètes du temps. L'année passée, Marchessault, il n'avait pas marqué beaucoup de buts après les deux premières rondes, mais finalement, il a explosé, puis c'est lui qui a gagné le trophée du meilleur joueur en série. Des fois, tes meilleurs joueurs, ça leur prend du temps aussi pour telle ou telle raison. Ça, on le sait jamais pourquoi, parce que sans ça, ça n'arriverait pas. Mais ça arrive que des fois, ils décollent pas au bon moment. Ben, donc, ta job en tant qu'équipe, c'est de leur acheter du temps. Puis, est-ce que là, Mathieu Barzal, il est décollé dans cette série-là? Peut-être, mais ça sera pas assez quand même.
Ben, je préférerais les Chances Islanders s'ils jouent contre un club très offensif. T'sais, avec un jeu un petit peu plus ouvert, par exemple les Rangers ou les Maple Leafs, là, je dirais peut-être qu'il y aurait des chances à revenir. Le problème, c'est leur adversaire. T'sais. Les Hurricanes, c'est la top équipe défensive de la Ligue nationale. Ils sont élite plus. C'est comme les Oilers Edmonton version défensive. Donc, dans ces circonstances-là, non, je les vois pas revenir.
OK, les gars, on va parler d'un but raté dans un filet désert qui a changé la donne complètement. J'explique rapidement. Le match entre les Canucks de Vancouver et les Prédateurs de Nashville. Nashville termine le match, mène 3-1. On retire le gardien de but du côté. Lequel gardien de but, vous allez me dire, pour Vancouver? Parce que là, on est rendu à...
Silov.
Écoute, A, B, C, D...
Demande à Simon Olivier de t'écrire le nom du gardien de but.
Non, j'aime pas
pourquoi?
Ça ce que tu fais.
C'est quoi cette blague-là? Pourquoi?
Les gens savent pas, mais je suis pas très bon pour écrire des noms de joueurs de hockey avec pas de faute.
Quand ils sont compliqués, puis il y a des... il y a des accents sur les S,
ouais,
encore.
Quand il y a pas... ils ont pas besoin d'être compliqués pour que je sois pris... Maintenant, je sais que Mathieu Barzal, il y a juste un T.
Ouais.
Par exemple, après m'être fait corriger, peut-être, je sais pas, 100, 200 fois par mon patron. Bref, okay. pas continuons.
Bah, écoute, c'est une petite note comme ça.
Pas besoin de parler de moi.
Ben non. Donc, les Prédateurs de Nashville, on les devant 3-1. On décide de sortir le gardien de but du côté des Canucks de Vancouver. Et Nashville a la chance de faire ça 4-1. On touche la tige. En fait, on frappe le poteau. On ne marque pas. On s'en va de l'autre côté. 3-2. On continue. 3-3. Et on gagne en prolongation 4-3. Là, présentement, Vancouver mène cette série-là 3-1 avec le troisième gardien de but. Comment tu vois, Simon-Olivier, cette situation-là? Est-ce qu'on va être capable de poursuivre là-dedans du côté des Canucks de Vancouver, même si on n'a pas de Smith, même si on n'a pas d'Emco?
Ben, je pense que les Canucks ont tout pour que ça fonctionne. Je veux dire, il y a tellement de bons joueurs dans cette équipe-là, puis les succès qu'ils ont connus cette saison témoignent justement de leur potentiel. Je ne parierais pas contre les Prédateurs, parce que c'est l'identité de cette équipe-là depuis toujours, pratiquement de toute l'histoire de la franchise, c'est que c'est un club qui abandonne pas, un club travaillant. C'est pas le club qui a le plus de ressources offensivement, mais c'est un club qui joue bien, qui est organisé, qui a un hiver formidable. C'est probablement peut-être une des cinq meilleures équipes de la Ligue en deuxième moitié de saison.
Depuis le spectacle cancellé de U2 à la sphère à Las Vegas.
Ils s'en sont jamais remis.
Ils ont fait « OK, on va jouer de bord ».
Et voilà, peut-être que cette défaite-là peut leur faire mal parce qu'effectivement, il y avait les Canucks complètement dans les câbles puis c'est eux qui ont échappé le ballon. Là, je fais des analogies de différents sports et c'est ordinaire.
Bravo.
Tout ça pour dire, je me suis perdu là-dedans. Bref, peut-être que cette défaite-là va faire mal, mais c'est quand même une équipe qui est bien construite, qui est bien dirigée, que c'est une équipe qui n'ont pas été vendeurs à date limite de transaction, mais ils n'ont pas été très agressifs non plus. Tu sais, je pense pas qu'Anthony Beauvillier, c'est le gars qui allait tout changer pour eux. Et moi, j'aime bien les Prédateurs, moi. Et j'aime justement cette identité-là. Donc, les Canucks qui, eux, cette saison, on dirait que c'était comme l'équipe que tout le monde voyait perdre au premier tour, ou peut-être pas tout le monde, mais tu sais, c'était la bonne équipe en laquelle les gens croyaient pas. Alors, les Canucks veulent confondre tous ces sceptiques-là, mais c'est pas fait. Je pense que cette série, je pense pas que cette série-là va sonner en 5.
OK, je veux savoir, Antoine, t'as vu la séquence quand on rate ce but-là dans un filet désert et ça fait en sorte que tu perds le match en prolongation. Qu'est-ce qu'on dit au gars après? Tu dis quelque chose? Tu y parles? Tu y parles pas? Tu le laisses aller? Qu'est-ce que tu fais?
C'est une bonne question. Je pense que, tu sais, en tant que bon coéquipier, tu veux jamais laisser tes coéquipiers à terre. Puis c'est ton rôle de justement de les ramasser, puis de la bonne façon, pas les enguirlander, justement pour leur donner du soutien. Ça peut arriver à tout le monde. N'importe qui aurait pu être dans cette situation-là. Ça arrive même aux meilleurs. Donc, je pense que avoir du support moral, c'était très important. C'est pas parfait parce que, bien entendu, tu veux gagner le match, mais t'es bien mieux d'avoir tes coéquipiers qui sont prêts pour le prochain match mentalement que d'avoir quelqu'un qui ressasse puis qui est pas efficace puis qui est surtout pas prêt pour le prochain match. Donc, c'est facile à dire, mais c'est à faire par contre.
Écoute, moi, je l'ai la solution.
Ah oui, on t'écoute. Je prends des notes.
Il aurait dû faire un slap shot dans un filet.
Voilà!
Ça aurait tout réglé. Voilà.
Ça aurait été simple.
Mais il était du revers, je crois. C'était plus compliqué dans ce temps-là. Mais oui, effectivement, ça aurait bien fini.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, hier, il y a eu un but, puis je pense que c'est dans le match des Canucks. Ouais, un but des Canucks. Trois revers de suite. Trois passes revers de suite avant
de marquer.
Je me souvenais pas, honnêtement, d'avoir vu ça.
D'abord, bravo. J'ai des frissons à ce temps que t'en parles. Mais dans les éléments qui pourraient changer de cette série-là aussi, c'est que Quinn Hughes ne semble pas en forme. Il a montré des quand pas en forme, clairement il joue blessé là.
Ouais,
je sais pas c'est quoi la teneur de ça, et on s'entend que c'est quand même une pièce maîtresse de la défense des Canucks. Si jamais lui, même s'il continue la série mais qu'il joue à 50%, je pense pas que les Prédateurs vont se gêner pour en profiter.
Mais beau petit jeu de sa part là, hier avec 10 secondes sur le bord de la bande. Écoute,
formidable.
Quel jeu formidable.
On appelle ça du talent, beaucoup de talent dans Quinn Hughes. OK, on va s'arrêter pour retour, on va se parler de la nuit des longs couteaux qui s'en vient mardi le 30 avril. Restez là.
Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Écoutez dès maintenant l'épisode avec Marianne Saint-Gelais.
J'étais pas fière de mes médailles. Je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité. J'ai absolument rien.
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média. Présenté par le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec. Ensemble, tissons l'espoir.
On est de retour au balado sortie de zone saison 5, épisode 57 avec Alexandre Pratt, Simon-Olivier Lorange et Antoine Roussel. Bon, les gars, c'est le temps de maintenant. Nous, on va trancher. Schlack! Comme la nuit des longs couteaux. Référence politique. Hein,
c'est très chargé.
Alors, on va laisser quelques instants aux gens pour aller voir sur Google, savoir c'est quoi la nuit des longs couteaux. Voilà, c'est fait. Donc, vous comprenez maintenant cette blague. Je vous pose la question. Qui restera? Toronto, Islanders, Jets, Nashville, qui part là-dedans? Je commence avec Alexandre.
Toronto part, Islanders part, Jets part et les Prédateurs restent.
OK, le seul club qui reste selon toi, c'est Nashville. Parfait, j'ai pris ça en note. Simon-Olivier, de ton côté.
Je pense aussi que les Islanders et les Jets feront leurs au revoir à la saison 2023-2024. Je pense que les Prédateurs vont continuer et je pense que les Maple Leafs vont y tirer le plaisir pour perdre devant leurs partisans le match 6.
Mais sans Austin Matthews, s'il joue pas, là, ça
on
va
sait
être
pas, là.
Honnêtement, les Leafs, ils sont dans un rôle de négligé fois 1000. Tout est contre eux. Alors, s'ils sont capables de trouver l'inspiration, je pense qu'ils peuvent rebondir un peu.
Mais ils ont du talent pour faire de la magie. Il y a quelqu'un qui peut connaître un match exceptionnel. Nylander peut arriver à connaître...
Ils ont le talent, mais auront-ils de la magie?
Ah, ben voilà la grande question. Antoine, de ton côté, qui reste là-dedans? Toronto, Islanders, Jets, Nashville.
Les Jets, ça reste pas. Hellebuck fait pas le travail. Puis moi, je pensais que ça allait être la grosse différence. Puis c'est ça que je disais il y a quelques semaines. Je suis vraiment déçu dans son cas, sincèrement. Très décevant. Fait que je pense pas qu'ils vont rester. Bien entendu, même si on joue avec le troisième gardien, peut-être qu'on va récupérer le deuxième du côté des Canucks. Je pense qu'on va passer au travers. La victoire a été âprement gagnée et disputée. Et écoute, on mène 3-1 dans la série. On aura trois occasions d'éliminer une équipe. Pour moi, ils ont assez de talent dans l'équipe pour passer au
Toronto,
travers.
Toronto, est-ce que ça passe?
je suis à Rémi-Toronto, je reste avec eux jusqu'à la fin.
J'aime tes principes.
Ben, lâche pas, Antoine. Lâche pas.
Un homme de cœur, on le rappelle.
Non, même, j'ai un peu d'intégrité. En fait, j'ai bafoué mon intégrité avec les Jets, mais là, les Bucks nous a laissé tomber. Okay. Quand même, là.
Islanders, est-ce que ça passe?
Oh non, ça se finit demain, ça.
Ah, puis Nashville, est-ce que ça passe?
Ça passe pas.
Ça passe pas, mais non, évidemment, t'as dit les Canucks. OK, hey, juste vous dire.
Ben, c'était un test, hein?
Ben, c'est ça. Je laisse savoir si tu suis.
Changé d'opinion.
Bravo. Des fois, tu sais, on pose deux fois mes questions.
Ça va, toi, gars.
Hey, je prends juste quelques instants. Puis, Antoine, t'as touché à ça un petit peu tantôt dans notre première portion de balado. Je veux vous parler de Corey Perry, parce qu'après le match d'hier, tu sais, on dit tout le temps Corey Perry, on va le chercher parce qu'on va aller loin en série. C'est un gars qui a de l'expérience. C'est le genre de joueur qui t'amène le plus loin possible en série. Après le match, Perry, après cette victoire d'un 0 face aux Kings, d'ailleurs, les Oilers d'Edmonton ont les devants 3-1 face aux Kings de Los Angeles. Après la victoire, tu sais, ça sera pas toujours des matchs de 7-4 ou 6-5. Là, je me souviens pas si c'est bon chiffre que je dis, mais vous comprenez, à haut pointage, mettons. Tu sais, il dit, nous devons de bien jouer défensivement, puis c'est ce qu'on a fait dans ce match-là. Est-ce qu'on a enfin compris comment ça marche, le hockey, pour dire, en série, c'est pas on rouvre la machine, on tient ça plus serré. Est-ce que Corey Perry est le porteur du message du côté des Oilers présentement, ouais. Alexandre?
En fait, cette victoire courte-là là, des Oilers était plus attribuable, je trouve, à Stuart Skinner, qui en a vraiment gardé toute une. Il a été super bon. Mais l'autre chose, je trouve, les Kings ont un petit peu quand même dicté cette partie-là. T'sais, par exemple, on a pairé Kopitar contre le trio de McDavid. Ça a été extrêmement plus efficace que toutes les autres tentatives possibles d'imaginer dans les premiers matchs. Donc, ce qui est encourageant pour les Oilers, c'est d'avoir que dans un match plus fermé, ils ont quand même été capables de gagner contre les Kings, qui sont une meilleure équipe, à mon avis, défensive que les Oilers. Quand on a fait nos prédictions au début, c'est la seule série où j'ai pas pris pour le meilleur club défensif. J'ai pris pour les Oilers. Je m'en vante aujourd'hui, d'ailleurs. Mais je pense
pour la troisième fois du balado, d'ailleurs.
Non, mais écoute, on est là pour ça, quand même. Donc, les Oilers, je crois que c'est la seule équipe qui est comme dans les séries présentement puis qui a vraiment une chance d'aller très loin avec un club qui est pas mal unidimensionnel, à mon avis. Là.
OK. Simon-Olivier? Est-ce qu'on a compris le message, Edmonton?
Ben, oui puis non, parce que c'est quand même une équipe qui est une des pires équipes à date dans le court échantillon des séries éliminatoires à 5-5. C'est vraiment, les Kings ont le dessus à 5-5, ce qui est pas un bon signe pour la suite des choses pour les Oilers si on fait beaucoup plus de chemin. Je pense qu'on a le bénéfice, justement, d'être beaucoup plus puissant offensivement que les Kings présentement. Mais faut que ce message-là, s'il est pas déjà compris, ben, il faut qu'il soit rapidement. Puis effectivement, ça a été un bon exemple parce qu'en fait, ce match-là, le match numéro 4, ce qui est intéressant, c'est que les Kings ont vraiment eu le meilleur sur à peu près tous les plans. Oui, Stuart Skinner a été excellent, ce qui n'avait pas été dans cette série-là. Et quand on regarde le détail des chances de marquer, les Oilers ont très bien protégé le haut de l'enclave, ou en fait l'enclave en général. Et c'est quelque chose, c'est des petits pas là, vers l'avant, parce qu'avant, c'était gratuit pour tous.
C'est ouvert des deux bords. Là.
Exact, c'est ouvert des deux bords, mais buffet, c'est dans les dernières années, c'était à volonté. Maintenant, on resserre un peu. Je continue d'être sceptique sur la profondeur défensive des Oilers, autant en attaque qu'en défense. Vraiment, leurs trois derniers défenseurs, tu sais que c'est Cody Ceci, Brett Kulak et Vincent Desharnais. Je vois pas la profondeur défensive d'un club champion comme leur trio 3 et 4. Je le sais pas. T'sais, je pense que ça peut fonctionner contre les Kings et c'est effectivement un pas dans la bonne direction d'avoir gagné un match aussi serré et à bas pointage. Je pense que la suite pourrait continuer d'être difficile pour les Oilers.
Okay, là, je vous trouve sévère. Moi, là, connaissant les Oilers d'Edmonton qui rouvrent la machine à peu près n'importe quand, n'importe où, puis même si c'était un match en après-midi, j'aurais cru qu'à 1-0, on aurait voulu forcer le jeu, aller chercher un but de plus, n'en marquer plus, c'est commencer à faire du jeu trop raffiné. Mais on s'est calmé le pompon, petit brin. Et ça, au moins, c'est une amorce de réflexion.
Est-ce qu'on s'est calmé le pompon ou on se l'est fait calmer? C'est le bout qui n'est pas clair pour moi.
OK. Antoine, est-ce qu'on s'est fait calmer le pompon ou on se l'est fait calmer? Voilà. Bonne chance.
Ben, c'est un petit peu comme je le disais. Je le disais, dans les séries, il faut que tu gagnes des matchs que tu n'es pas nécessairement supposé de gagner. Je trouve un moyen de remporter la victoire. Puis c'est un petit peu ça qu'ils ont fait. Oui, des fois, tu dois t'appuyer sur ton gardien de but. C'est lui qui te fait la différence. Puis puis c'est correct, tu gagnes 1-0, c'est parfait, faut que tu deviennes confortable dans ces matchs-là. Et peut-être qu'avant, les Oilers ne l'étaient pas confortables dans les matchs où c'était 1-0, comme tu le disais, il fallait qu'il y ait toujours en chercher un de plus. Mais au final, l'important, c'est d'en avoir un de plus que l'autre équipe. Puis est-ce qu'ils l'ont compris cette saison? Est-ce que c'est ça qu'ils disaient l'année dernière, comme je le disais en début de podcast? Est-ce que c'est ces choses-là qu'ils ont compris? Ben là, la réponse, ça s'en va vers le oui. On va le savoir dans quelques matchs, peut-être la prochaine ronde aussi, puis s'ils sont chanceux, celle d'après. Puis ça, on va voir vraiment s'ils ont appris de ces choses-là. Mais pour moi, c'est un petit peu l'affrontement qui va être difficile pour les Oilers, parce que quand tu joues contre les Kings, tu joues contre une ligne de centre qui est dominante complètement, mais haute défensivement. Puis là, ils sont pas capables de répondre quand même au jeu que les Oilers leur présentent. Donc pour moi, c'est quand même annonciateur de bonnes choses du côté des Oilers, et j'aime la construction de leur équipe. On sait qu'on a les chevaux offensifs, et on est allé chercher un petit peu de joueurs rugueux, capable de jouer offensivement. Tu sais, Perry, il a peut-être 38 ans, mais il est capable de jouer encore. Dylan Holloway qui commence à devenir meilleur. Mathias Janmark, moi, quand je jouais avec lui, il n'y avait pas nécessairement cette hargne-là. Je trouve qu'il l'a développé. Donc, on s'est amélioré à l'interne sur certains joueurs, et on est allé chercher ce qui nous manquait. Moi, j'aime beaucoup leur construction, du moins l'attaque. Je comprends ce que Alex voulait dire au niveau de la défense. Défensive, c'est pas nécessairement la meilleure défensive au monde, mais au final, toutes les équipes ont des trous en séries éliminatoires. Toutes. Elles ont toutes des trous, que ça soit dans le but. Il y en a qui ont la meilleure défensive, mais leur gardien, il est pas incroyable. Ben, au final, il y en a qui trouvent le moyen de gagner quand même avec un gardien pas incroyable. Ben, au final, ça peut peut-être être ça du côté des Oilers. T'auras peut-être pas la meilleure défensive sur papier, mais peut-être que tu vas passer les séries éliminatoires puis avoir du succès à la fin, parce que le tout ensemble fonctionne.
En fait, la seule équipe qui a pas de faiblesse, c'est celle que j'avais pris pour gagner la coupe, c'est celle qui est en train de perdre les Stars.
Non, pas bien,
très
là.
Bien balancé.
Mais là,
ça,
c'est pas
fini.
C'est pas fini, ça, non plus.
C'est pas
fini.
Ouais.
C'est le début. Mais faut pas t'en parler dans ce temps-là. Attends, on va avoir un autre balado. Tu pourras y revenir.
C'est pas fini. Alexandre, je te trouve bien défaitiste. J'aime pas ça de voir comme ça. Écoute, tu m'appelleras tantôt après. Parce
tout à fait.
Mais j'aime pas te voir ainsi, mais surtout quand tu parles de mon
chien. Je les ai pris pour gagner la coupe.
Non, attends,
au début de l'année.
Je vais te remonter le moral. Tu es récipiendaire du concours canadien de journaliste catégorie sport, Alexandre.
Mais ça n'est rien à côté de prédire le gagnant. La Coupe Stanley.
Effectivement. Hey, juste savoir un petit mot, puis je vais commencer avec Antoine. Lindy Ruff de retour à Buffalo. Tu l'as connu avec Dallas. Buffalo, il était là pendant quoi?
Je l'ai adoré.
15 ans à peu près avec les Stars de Buffalo avant de s'en aller avec les Stars, au moins une bonne dizaine d'années.
315.
Ouais, à peu près. Une bonne dizaine.
C'est le Philippe Alou des Sabres.
Tu l'as adoré, oui?
Non, je l'ai adoré. Je trouvais que c'était vraiment un bon coach qui était capable, en fait, d'aller chercher le meilleur de moi, qui m'a poussé, qui m'a fait une place pour m'améliorer, une place pour dans l'alignement. Donc pour moi, c'est impossible d'avoir des mauvaises choses à dire sur Lindy. Il y a des qualités, des défauts comme chaque coach. Maintenant, ma question, c'est: est-ce que c'est Lindy qu'ils avaient besoin? Ça, je le sais pas, mais souvent, puis on le répète à maintes reprises, quand t'as un coach qui est un petit peu plus X et O, puis qu'il est plus stratège, peut-être ce qu'on avait un petit peu avant, ben après ça, t'as besoin d'un coach qui est capable de pousser tes gars, puis d'être un petit peu plus dur. Puis le prochain coach de Buffalo, des Sabres, ça va être un coach qui est un petit peu meilleur tacticien, parce que Lindy, c'est pas le meilleur tacticien non plus, mais il est capable de se faire sortir son équipe au maximum. Donc, est-ce que j'ai été surpris? Oui, mais j'espère l'être encore avec les succès de cette équipe-là, mais je ne sais pas si on ne s'est pas trompé dans ce cas-là.
C'est Lindy Ruff. Moi, d'abord, j'ai trouvé que c'était assez injuste qu'il a vécu au New Jersey de se faire congédier cette saison, alors que ses gardiens de but ont été épouvantables, et que justement sa défense a composé avec des blessés toute la saison, son attaque aussi. Et après avoir vu ce qu'il avait fait la saison d'avant, une saison de 50 victoires en 22-23, je comprends. En tout cas, c'est un autre cas à mes yeux où l'entraîneur était peut-être pas le facteur, mais après ça, on s'entend, j'étais pas dans ce vestiaire-là, fait que je peux pas, j'y vais pour, c'est plus une impression. c'est ce qui pourrait faire, à mes yeux, un bon candidat en Lindy Ruff avec les Sabres de Buffalo, parce que c'est une équipe qui demande qu'à réussir. C'est une équipe qui a énormément de talent à toutes les positions, c'est-à-dire au poste de gardien de but, peut-être qu'on est plus dans le potentiel que dans le talent brut, mais en défense avec Owen Power, Rasmus Dahlin, on est là, on est parti pour longtemps, et Byron qu'on a rajouté en fin de saison. En attaque, on s'est permis d'échanger Casey Middlestad parce qu'on a tellement d'armes offensives. Maintenant, je pense qu'il faut mettre de l'ordre dans tout ça, et je pense que justement un entraîneur peut-être un peu old school pourrait être peut-être une bonne personne pour apporter une approche une nouvelle approche parce qu'on s'entend, il y a l'âge qu'il y a, mais justement une approche différente avec un jeune club. Et justement, j'étais un peu surpris qu'ils soient embauchés si tôt dans la saison morte, alors qu'on peut se douter, tu l'évoquais tantôt, qu'il y a différents entraîneurs qui vont devenir disponibles au cours des prochaines semaines. Mais moi, je trouve ça vraiment pas inintéressant comme embauche à Buffalo, et je pense que les Sabres, c'est une autre équipe que quand ça va finir par cliquer, ça va cliquer longtemps et ils vont faire beaucoup de ravages. Donc, si c'est ce qui leur manquait, ben pourquoi pas.
Pensez-vous qu'ils vont être meilleurs que le Canadien l'année prochaine? Parce que, tu sais, c'est le club dont on parle jamais dans la division. En fait.
Moi, je pense devant le filet, il y a encore un point d'interrogation, sincèrement. Puis je pense que leur structure offensive est vraiment solide, mais par moment, on prend beaucoup de chance offensivement. Fait que il va falloir retenir les chevaux un petit peu, puis je sais pas comment ils vont composer avec ça.
Ben, moi, si, devant le filet, il faut que ce soit mieux que cette saison. Mais tu sais, après ça, Devin Levi, qui était vu, c'est une mauvaise décision de gestion. Tu sais, envoyer un gars qui sort de l'université comme premier gardien, pour moi, c'est une mauvaise décision. Lyukkonen a une bonne saison. A bien rebondi. Ben, je sais pas si on peut dire qu'il a rebondi parce que c'est un gardien en émergence. A bien émergé cette saison. Moi, je pense qu'ils ont beaucoup, beaucoup plus d'atouts que le Canadien à court terme. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus.
Plus d'atouts matures. Ça, c'est clair. Exact. Mais pour l'attaque, là, exact. C'est sûr, c'est pas de doute. Vas-y, Antoine.
Non, mais c'est tellement vrai. Tellement une mauvaise décision de gestion. Il faut vraiment que tu sois dans la lune pour croire que ton gardien qui sort des rangs universitaires va devenir premier gardien tout de suite dans la Ligue nationale, puis que t'as personne vraiment pour l'appuyer. Ça revient sur les épaules du directeur général. J'en perds le mot parce que je trouve ça tellement stupide. Puis si j'avais été au sein de l'équipe, j'aurais trouvé ça vraiment imbécile, parce que tu joues tellement... dans la Ligue nationale, t'as une carrière, elle peut être très courte ou elle peut être assez longue, mais tout le monde n'a pas le même genre de carrière. Et quand ton directeur général fait en sorte qu'il prend des décisions de même, ça affecte toi, ta carrière aussi, parce que tu joues pas en séries éliminatoires, t'as moins de chances de te faire valoir et ainsi de suite. Donc, moi, cette décision-là, je la trouve difficile à accepter, même un an plus tard. Fait que, du côté de la direction, il faut s'ajuster et au plus vite. Non, tu peux plus faire ce genre d'erreur.
Bon, mais voyons la suite des choses avec les Sabres de Buffalo. C'est déjà tout pour ce balado sortie de zone, épisode de 57. Je dis merci à Alexandre Pratt. Merci beaucoup, Alexandre.
Plaisir.
Simon-Olivier Larange, toujours un plaisir. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Antoine Roussel, ce fut belle fun. Merci beaucoup, Antoine.
Merci beaucoup. Salut, les gars.
Voilà ce qui conclut le balado sortie de zone. Nous, on se reparle lundi, le 6 mai prochain.